écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 29 septembre 2014, dernier Canu Info du mois de septembre, avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Nous aborderons tout d'abord la rubrique internationale en faisant un rapide retour sur un événement du milieu de la semaine dernière, Robert. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 6 octobre 2014, avec Michel et Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, et puis un générique qui vous a peut-être un peu surpris, mais ce n'est qu'une variante, une version autre du chant des Canus par le FDA Quartet. Rubrique internationale, par quoi ouvrons-nous ? Robert,
oui. Je serais assez partisan d'ouvrir en signalant l'assassinat d'un député de gauche vénézuélien, Robert Serra, 27 ans, membre du Parti Socialiste Unifié du Venezuela, assassiné à Caracas il y a quelques jours, dans des conditions qui laissent penser que cet assassinat a été parfaitement bien planifié et exécuté. Et sur cette, à partir de là, eh bien, le président Maduro déclare une douleur immense nous étreint avec le meurtre de Robert Serra, dirigeant bolivarien, et chaviste, avocat, donc qui fait naturellement était aux côtés des comités de quartier avec les pauvres. Et ceci nous renvoie aux menaces qui ont très bien été résumés par José Faure, un journaliste qui travaille en pigiste, mais qui travaillait aussi pour l'Humanité, qui il y a quelque temps avait rédigé des articles sur ce qu'il appelle les vautours, c'est-à-dire c'est tous ces gens qui, sur les régimes progressistes d'Amérique latine, tournent comme un vautour et puis choisissent des proies. Bon, ça n'allait pas jusqu'à l'assassinat, sauf lorsqu'il y avait des émeutes, mais là, c'est vraiment l'assassinat à froid, sans doute, d'un de ces vautours.
Voilà, sur ce sujet, Michel, rien de plus à dire. On va peut-être rester sur l'Amérique latine avec l'élection présidentielle au Brésil. J'allais dire la réélection de Dilma Rousseff. C'est allé un peu vite en besogne puisqu'elle est arrivée en tête à 42% au premier tour. Le deuxième aura lieu le 26 octobre. Devant son challenger social-démocrate Atilio Noves, et encore plus devant Marina Silva, la candidate écologiste dont on a cru à un moment qu'elle allait emporter le morceau et qui finalement finit avec 21%. Le Brésil a perdu la Coupe du Monde, mais vous voyez, les Brésiliens ne sont pas rancuniers à leur présidente, puisqu'ils la mettent en position de se faire réélire, même si elle a perdu 3% de voix par rapport à la précédente élection. On a tout lieu de penser que au deuxième tour, elle passera. Enfin, c'est pas encore gagné, parce que le jeu des forces politiques, les sociaux, si la candidate écologiste s'allie fortement avec le social-démocrate, une surprise peut subvenir.
Oui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais quand même la tendance forte, c'est celle du Parti des Travailleurs, donc personnifié par sa présidente Dilma Rousseff, qui a su limiter un peu la casse, hein, puisqu'elle s'en tire plus que bien. C'est pas pour autant que l'électorat dans son ensemble brésilien donc lui donne son adhésion totale, mais c'est-à-dire, dans un premier temps, il y avait la possibilité de voir Marina Silva reprendre un peu le flambeau des revendications de la rue, et on s'est rendu compte, les électeurs brésiliens se sont rendu compte que dans les dernières semaines précédant le premier tour, elle partait un peu en déconfiture, qu'elle arrivait à se contredire, qu'elle n'avait pas de programme vraiment établi, mais qu'elle surfait plus sur ce mécontentement que sur une vraie alternative. Ensuite, le candidat donc de la droite, hein, Neves, hein, lui-même donc issu d'une, si j'ose dire, d'une famille de politiciens brésiliens, tous ancrés à droite ou très à droite, c'est pas fait pour tirer un électorat populaire. Donc il semblerait que le second tour voit la plupart des électeurs, hein, plus de 20 millions qui ont voté pour Marina Silva, reporter leur voix s'ils ne s'abstiennent pas sur Dilma Rousseff. Alors, là aussi, hein, c'est pas un plébiscite, mais c'est la reconnaissance que le Brésil, donc du Parti des Travailleurs, hein, sous Lula, son prédécesseur, c'est celui qui a su faire décoller l'économie de ce pays, qui a su créer des emplois. Ça aussi, les Brésiliens sont reconnaissants, et qui a su aussi démocratiser au niveau politique ce pays. Donc on a beau critiquer le Parti des Travailleurs, on a beau critiquer les pratiques de corruption au sein de ce parti, hein, et il y en a eu des affaires, on a quand même conscience que le Brésil, c'est un pays qui a changé, et qui a changé de manière radicale ces 20 dernières années, et qu'on le doit aussi beaucoup donc au Parti des Travailleurs. On doit à Silva et à son héritière politique Dilma Rousseff. Donc faut-il jeter, vous voyez, le bébé avec l'eau du bain? Les électeurs semblent effectivement penchés pour la continuité.
ce sera une continuité, certes probable ou possible ou espérée, mais ce qui également va constituer une continuité, c'est que le Parlement, les deux chambres, restent majoritairement centre-droit, c'est-à-dire que Rousseff, comme Lula, mais peut-être plus difficilement que Lula, parce que Lula avait quand même plus de députés dans, et de sénateurs dans les assemblées, devra pratiquer la cohabitation. Et c'est souvent ce qui fait qu'on veut, à gauche, de gauche, on a souvent reproché aussi bien à Rousseff qu'à Lula de ne pas appliquer les programmes sociaux jusqu'au bout, et y compris et écologiques, ce qui avait d'ailleurs provoqué la rupture avec la candidate écologiste. Mais ils en étaient empêchés par ce fait de devoir cohabiter. Et puis il faut rappeler aussi que le Brésil, c'est un pays fédéral, et que les gouverneurs des provinces sont très puissants, ils sont beaucoup plus puissants que les présidents des régions en France, et que de ce fait-là aussi, le pouvoir central est obligé en permanence de composer sur ses propres objectifs.
Voilà, autre sujet, ben on peut revenir avant de repartir.
Je peux rester deux ouais. secondes encore dans le sud américain pour simplement signaler que dimanche prochain, enfin ça fait pas exactement dimanche, c'est peut-être vendredi aussi, je sais plus, il y aura une élection importante en Bolivie, mais que là, Evo Morales part largement gagnant, mais encore une fois... on sait qu'effectivement, là aussi, les forces d'opposition, pilotées de l'extérieur, travaillent pour réduire sa marge de sécurité.
Voilà, oui, notre sujet qu'on peut aborder, bien sûr, c'est Hong Kong. Il est difficile de ne pas en parler un peu au moment où le mouvement a l'air d'être dans un reflux, sans avoir obtenu le retrait du dirigeant, sans avoir obtenu d'engagement. Face à une radicalisation qui devait conduire à des affrontements sanglants, on a l'impression que les militants ont décidé pour le moment d'arrêter la pression qu'ils mettaient et de libérer une grande partie des lieux qu'ils occupaient. Donc les Chinois gardent la main. La règle qu'ils veulent imposer, c'est de choisir les candidats pour un scrutin au suffrage universel, mais justement cette question du choix des candidats arbitrés par la Chine ne plaît pas aux gens d'Hong Kong qui voudraient une véritable démocratie, c'est peut-être beaucoup dire, nous on allait loin aussi, mais enfin plus de démocratie on va dire.
Oui, et c'est un peu comme à l'échelle chinoise, sont des revendications de riches. Hein. De riches, je m'entends. La Chine, pays, l'empire du milieu, centralisateur, essaye de combattre les séparatismes, autonomisme, on va dire, que ce soit leur minorité mongole. Que ce soit surtout leur minorité ouïghour, donc au Turkestan chinois, ou Xinjiang, ou que ce soit les Tibétains. Et il est clair que ce type de revendication, ce type de manifestation, que ce soit justement à Urumqi, donc au Xinjiang, ou que ce soit au Tibet, aurait été réprimé de manière féroce donc par les troupes chinoises. La grande différence, c'est que le statut spécifique de Hong Kong, qui a réintégré hein, la République populaire de Chine, mais qui a gardé quand même son statut. Et c'est la grande place forte de l'économie et de la finance en Asie du Sud-Est. Et c'est là aussi où toutes les caméras sont présentes. Hein. BBC World a ses locaux, je veux dire CNN a ses locaux, etc. Donc il était hors de question là d'utiliser la force. Et donc le gouvernement... centrale, Pékin a décidé donc d'opter pour l'essoufflement du mouvement et de jouer la population les uns contre les autres. Puisque, si on peut dire, il y a aussi toute une. Il y a eu des contre-manifestations donc, qui ont été bien sûr organisées par le gouverneur local qui obéissait à Pékin, mais qui avait l'aval, c'était pas tous des inféodés, qui avaient l'aval d'une partie de la population qui est les plus humbles et qui elle, a du mal à joindre les deux bouts et qui voulait qu'une chose, c'est pouvoir travailler. Donc on voulait effectivement lever donc, ce blocus pour aller travailler. Donc il semblerait, oui, qu'on aille vers un reflux donc, d'un mouvement qui reste quand même massif et qui restera quand même un nuage assez épais au-dessus de la tête des dirigeants de Pékin. Donc le problème de Hong Kong reste entier, même si on a tout fait et on voit mal maintenant le régime central utiliser la force.
Allez, autre sujet, dire quelques mots du cessez-le-feu ukrainien. Drôle de cessez-le-feu, c'est pas la première fois, mais on parle de milliers de violations de ce cessez-le-feu, et puis ces jours derniers, de combats carrément à Donetsk, autour de l'aéroport, où ils vont gaiement les bombardements et les kalachnikovs. Aéroport qui est cerné, petite troupe de troupes légalistes sont là, prises sous le feu des séparatistes. Et bon, la zone tampon de 30 km, il n'en est plus trop question. On se demande un peu maintenant, une fois de plus, comment les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. Est-ce que les séparatistes vont prendre la main sur toute la région et constituer réellement la République autonome qu'ils annoncent, ou est-ce qu'on a l'impression que le pouvoir ukrainien n'a pas les moyens de les contenir, quoi.
Alors on a vu militairement que le pouvoir ukrainien, l'armée ukrainienne était en déroute. Ce cessez-le-feu n'aurait jamais été signé par Kiev si Kiev avait l'ascendant sur le champ de bataille. C'est parce qu'ils se sont retrouvés dans des positions très délicates, et notamment avec l'encerclement d'une partie de leurs troupes sur place, qu'ils ont accepté donc ce cessez-le-feu qui a été aussi initié par la diplomatie russe. Hein. On a beau dire que voilà, c'est Loukachenko, donc le président biélorusse à Minsk, qui a rapproché les points de vue entre Porochenko et Poutine, toujours est-il que c'est directement la Russie qui a fait comprendre à Kiev que c'était de son intérêt de signer le cessez-le-feu et de se remettre à la table de discussion. Alors d'un côté, ça a permis le cessez-le-feu de discuter, hein, c'est pas non plus une mince affaire, et notamment de se mettre d'accord sur quelques volets, notamment celui du réapprovisionnement du gaz hein, russe qui doit transiter par l'Ukraine et avant, à l'approche de l'hiver, donc de fournir en gaz la plupart des pays de l'Est, mais aussi pour certains pays de l'Ouest et l'Allemagne notamment. Donc ça, c'est ce dossier-là. Donc on a réglé un peu ce contentieux dans un premier temps, malgré le fait que l'Ukraine doit toujours en arriéré 5 milliards de dollars donc à la Russie pour le gaz qu'elle a prélevé et qu'elle n'a pas payé. Et sur le terrain, ça a permis aussi aux troupes ukrainiennes de se réorganiser en vue de relancer une nouvelle bataille. Et dans le même temps, sont apparues des dissensions quand même entre la ligne du président Porochenko qui est celle d'un compromis, puisqu'il avait annoncé qu'il était prêt à donner une autonomie substantielle, hein, dans le cadre de l'Ukraine, à la région de Donetsk et de Lugansk, et de l'autre côté, celle de son premier ministre Yatsenyuk, qui, suivant le mot d'ordre un peu des États-Unis, ne veut rien lâcher et veut effectivement, par les armes, régler le conflit. Alors, on est tous en attente là des élections législatives qui vont un peu départager ces deux grands courants au sein du gouvernement ukrainien, entre le courant de Porochenko, qui serait celui du compromis, celui qui accepte d'aller à Minsk discuter directement avec Poutine, et de celui de Yatsenyuk, qui traite Poutine d'assassin et qui veut précipiter son pays dans les bras de l'OTAN pour garantir à l'Ukraine la sécurité. Enfin, on voit très bien que précipiter l'Ukraine dans l'OTAN, c'est la garantie de la guerre, oui, c'est tout sauf la sécurité. Toujours est-il que pour l'instant, on est sur une période de blocage, même si le cessez-le-feu sont violés, mais ça reste à très petite échelle, et d'ici un mois et demi à deux mois, on n'en parlera plus, parce que la zone, ou du moins le conflit sera gelé par l'hiver. Hein.
Voilà, Robert, tu veux intervenir là-dessus ?
Oui, simplement rappeler que pour les séparatistes qui, selon eux, et puis ça a été vérifié par des observateurs, les bombes qui tombent sur Donetsk et notamment sur des écoles ou des lieux publics viennent pour la plupart d'un secteur proche de l'aéroport contrôlé par l'armée régulière. Et pour les séparatistes, bon, ils n'incriminent pas forcément Kiev, mais des éléments de cette armée qui est composée de briques de broc, cette armée ukrainienne. Et c'est pourquoi ils estiment qu'ils doivent neutraliser l'aéroport pour essayer d'assurer la sécurité à Donetsk. Et un deuxième point, c'est simplement pour ajouter à ce que disait Michel sur les projets russes. Eh bien, effectivement, on a appris aujourd'hui lundi que le gouvernement russe, avec Poutine qui l'a annoncé, proposait 10 milliards de mètres cubes de gaz aux Ukrainiens pour pouvoir passer l'hiver au chaud, on va dire les choses comme ça, à un prix qui serait de 100 dollars inférieur à ce qu'était l'actuel coût. Enfin, puisque c'est virtuel, les Ukrainiens ne payent pratiquement pas. Mais le prix fixé jusqu'à présent par la Russie, c'était 385 dollars les 1000 mètres cubes. Et la Russie fait donc une proposition à 285 dollars les 1000 mètres cubes. Mais Kiev, pour l'instant, n'a pas répondu. Et Kiev dit que c'est une négociation beaucoup plus importante qu'il faut mener et qu'ils n'ont pas simplement à dire oui ou non aux propositions de la Russie.
Voilà, mais il nous faut faire un point sur la situation de l'État islamique et de Daesh, donc avec cette ville de Kobané qui est aujourd'hui l'enjeu d'un combat. Normalement, elle devrait finir par tomber aux mains des djihadistes. De Kobané, donc à la frontière turco-syrienne qui est défendue par des militaires kurdes, mais leurs moyens en hommes et en armes ne semblent pas être en mesure de contenir, d'autant plus que cet armement est moins sophistiqué, moins performant que celui des djihadistes, ne devrait pas leur permettre de tenir encore longtemps avant d'être obligés de céder cette ville qui, donc, est l'objet de toutes les attentions pour le moment, quoi.
Oui, enfin, voilà, on a parlé des semaines précédentes, l'ambiguïté de la Turquie. Kobané se situe donc en Syrie, dans le pays kurde syrien, mais à la frontière même de la Turquie. La Turquie vient, après moult rebondissements, de s'engager dans la coalition officiellement pour combattre l'organisation de l'État islamique. Et serait très facile pour elle donc de prêter un soutien à Kobané, mais c'est plus fort qu'eux. Hein. C'est Kobané est tenu, faut pas l'oublier, par les Kurdes et notamment les forces militaires kurdes sur place sont affiliées. Hein, c'est la branche syrienne du PKK. Le PKK que la Turquie combat violemment chez elle. Donc c'est plus fort qu'elle d'aider de fait les Kurdes. Alors ça peut, voilà, on est un peu dans ce paradoxe, hein, ils sont à la frontière, ils ont le moyen logistique, ils ont le moyen militaire de barrer la route aux islamistes pour prendre Kobané, mais ils ne font rien et c'est pas non plus les diplomaties occidentale qui les presse plus que ça, et on a vu un peu le double jeu de la Turquie ces dernières semaines qui a bien aidé l'international islamiste à passer la frontière et à passer en Syrie. La plupart sont passés par la Turquie.
Oui, je ne sais même plus s'il faut parler de double jeu à propos de la Turquie, parce que visiblement ils n'ont d'aucune manière, ni diplomatique ni militaire, ils n'ont rien fait contre l'avancée djihadiste jusque là.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, puisqu'on l'attention en ce moment est fixée sur Kobané, c'est tellement facile pour eux, ils sont juste de l'autre côté de la frontière, et ils ont des mortiers, ils pourraient donc avec leur arme lourde limiter à défaut d'aider l'équivalent PKK syrien à tenir la ville, au moins limiter l'avancée de l'organisation de l'État islamique, mais on voit bien que c'est pas leur souci. D'où la question légitime, hein, ce pays, la Turquie, membre de l'OTAN, quelle est la position, on l'a évoqué, quelle est la position stratégique de la coalition dans son combat contre l'État islamique. Les choses sont tout sauf claires. C'est quoi? C'est faire pleuvoir des bombes pour le plaisir de faire pleuvoir des bombes pour le marché militaire. Quels sont les enjeux stratégiques de l'opération? Quels sont les termes dans le temps de cette opération? Enfin, tout ça, c'est le flou le plus total.
Ouais. Sur le plan humain, donc des centaines de morts, semble-t-il, des deux côtés dans les combats. 300 000 personnes qui ont fui cette ville et la région en exode, dont 180 000 sont passées en Turquie. Quoi. C'est quand même pas des, c'est pas des bourgades de 300 habitants.
Quoi. Tout à fait.
Robert, tu voulais...
Oui, effectivement, simplement, la Turquie, eh bien, comme le font souvent les pays en période de guerre, c'est une stratégie sordide, c'est de dire... laissons-les s'exterminer entre eux, et puis on verra après. Enfin, celui qui sortira très affaibli de ce combat, eh bien, on le combattra. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que la Turquie regarde cette bataille entre les Kurdes communisants et les Arabes islamisants.
Voilà, bien d'autres sujets, mais on va peut-être écourter là l'international, à moins que l'un de vous deux ait quelque chose qu'il veuille absolument traiter, là. Non ? Ah ben, on fait une petite pause musicale avec les Ramoneurs de Menhir, Viva la Révolution. Rubrique nationale de ce Canu Info du 6 octobre 2014, pas 10, avec un sujet qui concerne le travail de l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. N'est-ce pas, Robert?
Oui, ça avait déjà plus ou moins démarré avec les contacts, d'abord à la conférence de presse de Ségolène Royal sur son projet de transition énergétique pour la croissance verte. Hein, et il faut décliner le titre dans son entier. Bon, alors on sait que c'est contesté aussi bien dans la gauche écologique que dans la droite pro-nucléaire, par exemple. Mais c'est ainsi que le débat va s'orienter à partir d'aujourd'hui. Et sur, on connaît les éléments. Bon, ce sont des éléments qui figuraient dans le programme de François Hollande, notamment c'est de ramener à 50% la production énergétique française en matière de nucléaire, et puis, bon, effectivement, les énergies renouvelables, et puis les économies d'énergie, bon, c'est les trois grands sujets qui sont débattus toute cette semaine. Mais la droite fait bloc pour qu'on ne touche pas un seul atome du nucléaire, quitte à ce qu'un jour on ait un Tchernobyl ou un Fukushima. Mais ça, évidemment, la droite n'en a que faire. Elle dit pour les besoins productivistes de croissance, il faut garder l'ensemble, il faut même continuer à développer la source énergétique que constitue l'énergie nucléaire. 64 articles qui seront à débattre, 2500 amendements et un vote final qui, en principe, doit intervenir le 14. Alors donc, ça fait une semaine de débat où, effectivement, il se dira beaucoup de choses et un peu n'importe quoi, parce que on sait qu'il y a un blocage total là-dessus, bien que, par exemple, sur le nucléaire, quand on fait des sondages, on s'aperçoit aujourd'hui que la France est très partagée, même légèrement favorable à ce que l'on fixe le terme du développement et de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Et à ce titre, circule une pétition par le réseau Sortir du nucléaire, qui, en fait, attaque brutalement en disant que pas de transition énergétique viable et possible sans arrêt immédiat du nucléaire, de l'énergie, de la production nucléaire. Donc, c'est une pétition qui a déjà recueilli plusieurs dizaines de milliers de signataires. On la trouve sur le réseau, c'est-à-dire réseau sortir du nucléaire. C'est un débat très âpre, comme on l'a dit, parce qu'effectivement, ça remue beaucoup de choses et ça fait remonter l'histoire à 50 ans. Et puis, ça veut dire que si on met fin à la production nucléaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi on mettrait en danger des peuples extérieurs en leur vendant des EPR ou autres formules nucléaires, alors que pour soi-même, on déciderait d'arrêter tout. Ce serait effectivement quelque chose qui serait incompréhensible et condamné par beaucoup de pays. Alors, c'est là où la droite revient en force, et puis les pro-nucléaires à gauche, parce qu'il y en a, par exemple, on se souvient que du côté des communistes, c'est le côté scientiste, les communistes, et puis aussi des gens comme l'ancien ministre du redressement industriel, Montebourg, n'hésitait pas à dire qu'il était pour le nucléaire, et également à la marge pour éventuellement le gaz de schiste, sous condition que, etc., etc., parce que évidemment on va parler également du gaz de schiste au niveau des énergies de remplacement, mais là aussi il y a eu une opposition très forte en raison des risques de destruction et de pollution que produirait dans les conditions actuelles la recherche du gaz de schiste. Donc une semaine très dur à vivre. Alors on va voir si les écologistes vont pouvoir, on va dire, un peu sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont mis en quittant le gouvernement et sans véritablement se créer des éléments alternatifs, autonomes. Bon, il y a un travail qui se fait avec le Front de Gauche et d'autres forces, et puis aussi avec la gauche du PS, mais tout ça reste assez, un style politique, pour ne pas dire politicien, et on attend de voir comment, effectivement, vont sortir de ce débat les écologistes en France.
Voilà pour ce sujet qui va prendre une bonne part de notre rubrique. Michel, avais-tu un sujet de prédilection dans le domaine national aujourd'hui, pas spécialement?
Pas vraiment. Oui.
Ben, actualité politique aussi, c'est Benoît Hamon qui faisait son show avec Un Monde Nouveau, c'est Lindemann avec Maintenant la Gauche, c'est Montebourg qui, en dehors du PS, se lance dans une opération dans la perspective de candidat à la présidence de la République. On voit qu'il y a beaucoup d'agitation pour diviser la gauche. Et Hollande, pendant ce temps-là, rame comme c'est pas possible pour draguer les Verts. Et dans la perspective des élections de 2015, élections des conseillers régionaux et départementaux, d'essayer de faire des listes d'union face à... pour bloquer un peu le FN, quoi. Sachant que le PS est en mauvaise posture. Donc tout ça, on a le temps de voir venir, mais on sent que ça va pas être simple, parce que Hollande a aussi beaucoup déçu ceux qu'il courtise aujourd'hui, et il y a certains qui semblent assez rédhibitoires, comme Cécile Duflot, bien sûr, qui s'oppose assez vertement, par exemple, au ministre Ramsamen, en disant qu'elle est contre la régression des conquêtes sociales effectuées par la gauche. Plus à gauche que le PS, eh ben, on a trouvé, c'est Cécile Duflot. Voilà la manif de la droite, il faut bien l'appeler par son nom, hein, soi-disant défense de la famille, mais alors ils ont des lunettes grossissantes, ces gens-là, puisqu'ils sont passés de 70 000 à 500 000, on ne sait pas bien où est la vérité entre les deux. Et donc une manif organisée autour de la soi-disant défense de la famille, mais dans laquelle toute la droite réplique pour instrumentaliser tout ça. La PMA, la GPA, enfin on connaît. On a pu voir un certain nombre d'élus, Vauquiez, Mariton, Alliot-Marie, et même la jeune Le Pen de la famille. Il réclame l'abrogation de la loi Taubira et du mariage pour tous, évidemment. Une manif qu'on peut aussi qualifier d'homophobe en sous-main. Curieux de la part de gens qui honorent une certaine Vierge Marie, première mère porteuse de l'histoire de l'humanité, mais enfin, comprennent qui pourra.
Je ne l'ai pas vu comme ça, oui, c'est vrai.
D'autres sujets, Robert, tu voulais intervenir?
Non, voilà, une anecdote, c'est cette déclaration pompeuse et pompier de Manuel Valls à Londres, au pied de la City, pour dire que son gouvernement est pro-business. On l'avait compris, mais c'est un peu plus que de dire qu'il aime les entreprises. Hein, pro-business, enfin du moins dans la connotation française, c'est vraiment le fric, hein, le fric, le fric. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'on pouvait...
La manif à Gardanne, tu n'y étais pas, non, des fois?
Il y a cette décision, cette injonction presque de la Commission européenne des droits de l'homme, injonction à la France qu'elle laisse se créer, dans des conditions qui peuvent être adaptées, mais qu'elle laisse se créer des syndicats dans l'armée. On sait qu'un certain nombre de pays, je n'en connais pas beaucoup, mais je sais qu'en Allemagne ça existe, les syndicats dans l'armée. Et ben, simplement, ça nous rajeunit un peu, parce qu'on se souvient que dans les années 70, eh bien, les syndicats de soldats clandestins avaient émergé, et beaucoup, ben, évidemment, s'étaient retrouvés poursuivis, emprisonnés. Enfin, il y avait eu, de par l'État de l'époque, une lutte très dure pour briser le syndicat de soldats des années 70 en France. Alors, on verra. Alors, Le Drian a dit c'est pas le moment n'est pas venu, ou quelque chose comme ça, qui voulait dire la question n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, ben, je crois que tu as peut-être quelques petites informations.
Oui, il y a
aussi,
quelques brèves. Ben, en social, il faut dire que Goodyear-Amiens, donc il y a 5 salariés protégés dont le licenciement a été retoqué par l'inspection du travail. Ça laisse une brèche ouverte pour tous les autres. On va voir la suite. On dira aussi que les soutiers du Royal Monceau, le palace parisien, sont en grève. C'est la première depuis 33 ans. Il s'agit donc du personnel qui travaille au nettoyage des chambres. Donc il y a quelques petites choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, un mot de cette manif à Gardanne contre une centrale thermique qui est censée se transformer en centrale à biomasse. Il y irait de 900 000 tonnes de bois par an et avec une subvention d'1,5 milliard sur 20 ans. Tout ça pour faire une pollution assez générale dans le secteur.
Une pollution et en plus un taux d'efficacité de l'ordre de 30% seulement. Toutes ces milliers, centaines de milliers de tonnes de bois, dont on dit qu'on n'en trouvera d'ailleurs pas suffisamment en France, qu'il faudra en faire venir du Canada. Et d'ailleurs, hier, il y avait une importante manifestation à Gardanne. J'en ai pas parlé, effectivement, mais tu as bien fait de le rappeler.
Voilà, 1 200 000 écolos, c'est le nombre de visiteurs qui aura prévu au salon de l'auto. Il paraît que la bagnole repart, 6% des matriculations en plus en 2014. Et donc, il y a un certain succès populaire dont on peut se féliciter ou pas. Picsou est aux abois, du coup, l'oncle Sam va lui venir en aide en recapitalisant Euro Disney à hauteur d'un milliard. Il paraît qu'un sursaut de l'intelligence humaine a fait qu'il y a de moins en moins de monde qui va là-bas. Et les Américains vont essayer d'enrayer ça. Voilà, courte pause musicale, et puis on se retrouve avec nos invités pour parler d'une association sur un sujet important. Continuer et terminer ce Canu Info, nous recevons ce soir deux invités, Anne et Christian, qui représentent l'association SOS Phoenix Suicide, association qui, du 9 au 11 octobre à la mairie du 1er, propose une exposition, Le Suicide en face. Je vais donc leur demander de nous en dire plus. Bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
Bonsoir.
On parle de l'exposition ou de l'association en premier?
Pas comme vous voulez.
C'est plus logique de parler de l'association, disons. C'est quoi votre association?
Alors peut-être SOS Suicide Phoenix, déjà avant peut-être de parler de l'association, parlons un petit peu de la thématique du suicide. On aime bien les chiffres, donc on pourrait rappeler que la question du suicide, c'est une question aujourd'hui, une priorité de santé publique, et puis qui concerne tout le monde, puisqu'on parle aujourd'hui d'un suicide toutes les 4 secondes dans le monde, de 27 suicides par jour en France, et de 700 tentatives de suicide par jour, et on sait que le suicide aujourd'hui tue 3 fois plus que les accidents de la route. Donc c'est vraiment une cause importante et tout le monde est concerné. Donc c'est comme ça qu'est née notre association, hein, SOS Suicide Phoenix Lyon, puisqu'on est une antenne, on est fédéré par une fédération qui réunit autour d'elle 8 antennes, hein, dans toute la France. Cette association, elle est née en 83. À l'époque, hein, le président de cette association, qui a monté cette association, venait d'être confronté dans son établissement à un suicide. Et donc, il a décidé de transformer les choses, hein, et de ne pas considérer le suicide comme une fatalité. C'est comme ça qu'est née notre association, hein, avec la volonté de prévenir et de lutter contre le suicide.
Voilà. Et quelle action, avec cette exposition que vous nous proposez à la mairie, vous souhaitez mettre en avant?
Voilà. Alors, l'association, dans ses activités, en effet, hein, fait un certain nombre d'actions, du type de celles que nous organisons cette semaine. Présenter le suicide, on fait venir en fait une exposition qui a été présentée en 2008 à la Cité des Sciences, où on a un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, hein, de médecins, d'épidémiologistes, de sociologues également, qui vont parler du suicide à la fois pour le démystifier, pour expliquer un petit peu les enjeux liés au suicide, et bien évidemment pour sensibiliser sur le fait que ben, on a tous quelque chose à jouer pour prévenir du suicide et pour tenter d'enrayer cette problématique. Donc c'est l'un des objets de cette association, hein, c'est de parler du suicide et de contribuer à sa prévention, chacun à notre place. C'est pour ça que c'est une exposition qui est ouverte à tous, hein, qui ne s'adresse pas uniquement à des professionnels, mais qui a vocation à ce qu'on en discute, puisque alors, la question du suicide est une question qui est complexe et aujourd'hui qui s'appuie sur un certain nombre d'idées reçues qu'on essaye de combattre au quotidien. L'une des premières idées reçues, c'est de se dire bah, le suicide, on n'en parle surtout pas. Hein, c'est tabou pour un certain nombre de raisons. Or, c'est justement l'inverse qu'on essaye de promouvoir. Hein, c'est que le suicide, pour que ça reste pas une fatalité, faut en parler, faut en discuter. Et c'est un des meilleurs moyens de le prévenir.
Exposition, on pense photo, tableau, là il s'agit de quoi ? Là il s'agit de panneaux
Oui, alors il y a un certain nombre de panneaux où on explique hein, les enjeux du suicide, il y a un certain nombre d'explications autour de cette question-là. Il y a également un certain nombre de jeux de questions-réponses, hein. Il y a aussi des espaces un peu plus interactifs où chacun peut se confronter à l'idée du suicide, se poser des questions hein, sur l'idée du suicide. Et puis l'objectif, hein, c'est bien évidemment aussi un espace de rencontre, c'est-à-dire où notre association peut aussi échanger sur cette question, parler de cette question, exprimer aussi tous les moyens de prévention qui peuvent exister autour de la question du suicide. Ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que notre association, alors elle promeut comme ça hein, des actions pour qu'on parle du suicide. On a aussi d'autres activités, hein, une activité d'écoute. On a un numéro de téléphone, donc c'est le 01 40 44 46 45, qui est un numéro d'écoute où chacun, alors bien évidemment des personnes qui se posent la question du suicide, mais également des proches, qui savent pas trop comment faire hein, par rapport à cette question-là, qui peuvent nous appeler. On est un certain nombre de bénévoles écoutants hein, pour échanger sur ces questions, pour écouter bien souvent une souffrance qui est énorme, parce que le suicide, c'est ça. Hein, le suicide, c'est une souffrance qui est devenue à tel point difficile à supporter qu'on n'imagine plus aucune autre solution. Or, on voit bien qu'à travers le dialogue, à travers l'écoute, en essayant de comprendre, de connaître et de reconnaître les personnes dans leur souffrance, on arrive à ouvrir d'autres portes et d'autres issues, bien évidemment, à la mort. On a cet espace d'écoute téléphonique, mais on a d'autres espaces également, hein, puisque notre activité, c'est aussi aujourd'hui de recevoir des mails. Hein, on a aussi, alors on a un site internet hein, où on peut nous adresser des mails. C'est un mode d'expression aussi qui on n'a pas les mêmes personnes qui nous appellent et qui nous écrivent. On a beaucoup de jeunes hein, notamment qui nous écrivent par mail, et là aussi hein, c'est l'enjeu, c'est d'échanger, de comprendre, de connaître, de reconnaître cette souffrance, et puis d'essayer d'ouvrir de nouvelles portes autres qu'une fin dramatique. On a également des espaces d'accueil hein, puisque on accueille les personnes sur rendez-vous, toujours autour de l'échange et de la compréhension de la souffrance.
Et là, donc, pendant ces 9-10 ans, ça fait 3 jours. Hein, c'est donc, on est le... C'est, ça fait quoi, ça, de mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça ?
Jusqu'à samedi midi.
Jusqu'à samedi midi. Il y a en permanence quelqu'un qui est là pour parler aussi avec les visiteurs. Quoi. Et les horaires, vous nous les avez donnés ?
Alors, ça commence mercredi à 14h. Hein, mm-hmm. Et ça termine... donc, c'est à la mairie du premier. Hein, ça commence à 14h mercredi et ça se termine samedi à midi.
14h, 18h, 19h ?
14h, 18h, 19h, oui, oui.
Et les deux jours d'après, c'est le matin
ça,
aussi
ça, oui, oui, ça sera du matin, de 9h du matin à 18h le soir. Et en permanence, en effet, on aura des bénévoles qui seront présents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre association fonctionne avec une quinzaine de bénévoles. Pour autant, on est extrêmement vigilant à ce que nos bénévoles puissent suivre une formation particulière qui est délivrée par notre fédération sur la compréhension de l'acte suicidaire et toute une réflexion autour des moyens de prévention et d'accompagnement des personnes et d'orientation également, parce qu'on n'est pas un lieu de thérapie, hein, mais on est vraiment un lieu d'écoute et éventuellement d'orientation pour les personnes qui sont en grosse difficulté.
Voilà, qu'est-ce que vous répondriez rapidement à la question, mais le suicide est un droit pour l'être humain, tout comme celui de... On n'a pas demandé à naître, on a le droit de choisir de mourir.
Alors le souci, c'est ce qu'on se rend compte à travers les différentes écoutes qu'on peut faire, les différentes rencontres, hein, y compris avec des personnes en grosse difficulté, c'est que le suicide, c'est pas un choix. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est une impasse, c'est-à-dire qu'on pense au suicide quand il n'y a plus d'autres solutions. Or, on se rencontre hein, à travers les échanges, à travers les dialogues qu'on peut avoir avec les personnes, qu'il y a d'autres pistes, il y a d'autres voies à explorer. Et bah, c'est quand même après ça qu'on court, nous, hein, c'est d'essayer d'ouvrir d'autres portes pour reconstruire quelque chose de différent. Donc, ce n'est pas un choix. Hein, on est acculé quand on pense au suicide.
À vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes moins dans la prévention que dans la thérapie, quoi. Enfin, vous êtes moins dans la prévention pré-idée suicidaire que dans l'action avec des gens qui ont déjà un peu ça dans la tête, quoi.
Alors, en santé publique, on appelle ça de la prévention tertiaire, hein. En effet, bien souvent, on a des personnes qui pensent fortement au suicide ou qui sont déjà en crise suicidaire. Pour autant, on n'a pas que ce type hein, de personnes qui nous sollicitent. Hein. On intervient aussi, y compris en prévention primaire, puisqu'on a un certain nombre aussi, d'enseignants ou de personnes dans les entreprises qui nous appellent pour dire « bah voilà, j'ai repéré ça, je ne sais pas comment faire, où est-ce que vous pouvez m'orienter pour essayer de prévenir, de mieux détecter, de mieux dépister, et puis d'engager quelque chose qui soit un petit peu structurel pour éviter que les personnes soient acculées justement à ce type de questions.
Et votre action, vous lui mesurez une certaine efficacité par la pratique, quoi. Vous avez l'impression d'avoir tiré des gens de cette tendance?
Alors c'est ça qui nous porte. Encore une fois, à travers toutes les expériences qu'on peut avoir, on arrive avec les personnes à ouvrir d'autres portes, à recréer de l'espoir, à recréer un petit peu d'énergie pour trouver d'autres types de solutions. Donc on y croit, oui, et on le mesure, je crois, on le mesure au quotidien, sinon on ne serait pas là.
Donc on rappelle, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi midi, cette exposition, le suicide en face, mairie, je pense que c'est la salle des mariages, enfin, je ne sais pas si elle est bien nommée en l'occurrence, mais il n'y a pas de rapport évidemment, donc dans laquelle se tient cette exposition, avec donc un accueil pour les auditeurs que ça intéresse. Merci à vous. Un dernier mot, non? Ça va? Vous avez dit à peu près tout ce qui, en 5-10 minutes, était possible de dire. On pourra d'ailleurs, enfin, on en reparlera peut-être, faire une heure entière sur le sujet, mais ce serait une autre démarche, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir le réentendre sur Internet ad vitam aeternam à partir de ce soir. Ne quittez surtout pas l'antenne. Bonsoir.
Cimetière où l'an 1936, après un bref des profondis, on l'a couché dessous la pierre. Moi qui la croyais. feuillet, feuille morte, l'humus d'où jaillit le printemps. Voilà qu'après plus de 30 ans, elle a bien su trouver ma porte. Elle me regarde en silence, sans avoir contour ni la seule. Je fais bien semblant d'être seul. Et je me heurte à sa présence. Je ne suis plus cet enfant sage qu'elle avait nourri de son sein. Pourquoi vient-elle, en quel dessein? Et pour me dire quel message? Dis-moi, viens-tu chercher mon âme ou simplement la surveiller? Mes enfants vont se réveiller et je dois réveiller ma femme. Va-t'en, maman, le jour va poindre, un jour de plus. Soit dit sans témoin, je me prépare à te rejoindre.
Buterne a le cœur gourd, Jeanne et Buterne est fatiguée. Jeanne et Buterne a le cœur gourd, Amédéo n'est pas rentré, Amédéo n'est pas rentré. Regarde sur la nappe blanche, tache de peinture mêlée, un petit tas de poudre blanche, à grande tache vinacée, à grande tache vinacée. N'est pas Frida la Mexicaine, ni Delaunay, ni Laurencin. N'est pas plus peintre qu'écrivaine, Jeanne et Buterne n'est moins que rien. Jeanne et Buterne n'est moins que rien. N'est pas l'épouse légendaire, n'est pas plus César que Gala. D'un génie la muse ordinaire, la Jeanne n'en fut pas moins là. Jeanne n'en fut pas moins là. Jeanne et Buterne a le corps gourd, Jeanne et Buterne est effondrée. Jeanne et Buterne a le corps gourd, Amédéo est décédé, Amédéo est décédé. Regarde sur la nappe blanche, fente lointaine de l'aîné, ventre tendu sous la peau blanche, veuve et enceinte de l'aimé, veuve et enceinte de l'aimé. Jeanne et Buterne a le corps lourd, écrasé contre la chaussée, lourde du fruit de son amour, la Jeanne s'est défenestrée, Jeanne s'est défenestrée. Combien de Jeanne sur la terre, combien de Jeanne sur le temps, combien de partages misères, dont le temps n'a pas fait chou gras, dont le temps n'a pas fait chou gras. Autant que de génies sur terre, autant que de génies, je crois, qui vont peupler le cimetière de ceux dont on ne parle pas, de ceux dont on ne parle pas.
Les paroles ne sont pas bien fines, mais c'est sur un petit air pimpant. C'est la chanson des illusions, sur l'amour dont on nous bassine. Même s'il s'est déboutonné, il sent toujours la naphtaline. C'est pas une loi de la nature, c'est du blabla de roman photo. L'amour parfait, l'amour qui dure, ça s'use et c'est pas rigolo. nostalgique d'éternité. On veut coller à des images, comment s'aimer sans s'étouffer, vivre sans rater les virages. C'est une chanson de déglingue pour les lendemains d'élection, quand on se sent devenir dingue, le cul devant la télévision. Quelques guignols font de l'hépate, on appelle ça l'information, celle qui vous fait voter à droite et nous plonge tous dans le brouillon. On nous dit demain ça ira mieux, en attendant laissez-vous faire, même si vous croyez pas en Dieu, paradis ça devrait vous plaire. Ça s'appelle les lendemains qui chantent, oui faut penser à nos enfants, comme on est dur à la détente, ils chanteront pas avant longtemps. C'est la chanson du noir du plomb, de la marée qui monte, du profit qui ne dit pas son nom, des profiteurs qui n'ont pas honte. On est là les mains dans les poches, on se regarde l'air idiot, mais pourquoi le monde est si moche? Dis maman pourquoi tu m'as fait, je suis pas beau. C'est une chanson désespérée qu'on peut prendre à la rigolade, depuis le temps qu'on nous fait ramer pour les mêmes gens, les mêmes salades. Y aurait de quoi prendre la fuite, mais ils sont déjà sur Pluton, faut agir vite et tout de suite, sans quoi on va choper le plomb.
Intéressons-nous un tout petit
Montreuil, le 29 novembre 1976, à 9h moins le quart. Une femme de 31 ans se jette du 18e étage de la tour où elle loge.
La clarinette qui était gonflée a dit les potes ça va jaser, c'est ok, ok. Le saxo qui comptait les points a mis le chorus au bout de sa main, ouais, ouais, ouais. Le piano qui était pas Chopin se donnait pourtant un mal de chien, mais de chien, mais de chien. On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz a débarqué. Jazz band, band à Duke Ellington, ton, 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 ton. Jazz band, band à Louis Armstrong, strong, 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 strong. Jazz band à Stan Kane, ten, 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 ten. Jazz band. Jazz band, jazz, and so on, 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 on. Le violon qui jouait taillis se faisait passer pour le bassiste.
J'aurais si t'aurais venu, je m'aurais pas allé.
Le basson, sacré nom de nom, était pas dans la partition.
Il lisait le journal. Le hautbois qui se faisait tout mince, a dit les potes, y'a du suspense, 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 suspense.
On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz est dans le quartier. Ben à Duke Ellington, ton, 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 ton. Jazz band, band à Louis Armstrong, strong, 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 strong. Jazz band à Stan Kane, ton, 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 ton. Jazz band, jazz, and so on, 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 on. La mélodie s'est dégonflée, on l'a retrouvée, on s'est barré. Les drums sont tout foutus en l'air, paraît que ça coûtera un peu cher. La guitare s'est arrangée pour planquer bac à la pitié, pitié, pitié pour un pauvre musicien. Y a pas eu moyen d'y couper, la bande à jazz tenait le quartier.
Jazz band, et moi pour l'écouter, et jazz band, et toi pour y danser. Jazz band, band à Duke Ellington, ton, 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 ton. Jazz band, jazz band, jazz, and so on, 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 on. Une chanson sur le printemps nous mitraillait de la fleur des champs. Une java qui avait mal tourné, nous foxtrottait en javanais. Un vieux tango sous un faux nom, nous soldait du boogie bidon, bidon, avec Colaton et tout. On allait peut-être pouvoir s'aimer, la bande à jazz quittait le quartier.
Je t'aime, même si c'est sur trois temps. je t'aime. Ici ou dans le vent, je t'aime. En jazz ou à nos gens, je t'aime. L'accordéon haletant,
nommé Samy, un vieux pianiste noir. Il avait sur la tête un huit reflets violet. Dans un pub de Soho, c'était là qu'il jouait. Et je suis devenu copain dans les brouillards. Le copain de Samy, le vieux pianiste noir. Quand je suis au piano, il m'a dit, quand je joue, ce qui se passe autour de moi, alors là, je m'en fous. Je vois de beaux jardins qui s'éveillent au printemps. Moi, je suis au milieu, tout habillé de blanc. Quand je suis au piano, il m'a dit, quand je joue, ce qui se passe autour de moi, alors là, je m'en fous. Il y a souvent des bagarres, des coups de revolver. Je sais pas comment je fais, je passe toujours au travers. Je suis pas courageux, je m'en irais si je pouvais. Mais je suis tellement saoul que je peux plus me lever. Il y a souvent des bagarres, des coups de revolver. Je sais pas comment je fais, je passe toujours au travers. Il y a souvent des souris qui viennent m'embrasser pour que je joue un air de leur passé. Et les v'là, le cœur battant, les v'là tout amollis, de se rappeler le temps où elles étaient jolies. Il y a souvent des souris qui viennent m'embrasser pour que je joue un air de leur passé. Quand tout le monde est sous, je joue pour mon amour. C'est bien joli à dire ces deux mots, mon amour. Celle que j'aime n'a jamais et ne peut pas exister. Elle se promène dans mes jardins en liberté. Moi je suis tout en blanc et elle est mon amour. C'est bien joli à dire ces deux mots, mon amour.
Yeah. Morte à Memphis dans le Tennessee, il y a 35 ans, le bras arraché. Entre un hôpital réservé aux blancs et un hôpital interdit aux noirs, entre la pitié et la charité, morte entre deux grilles et entre deux ciels, c'était en septembre 1937, c'est un fait divers que je vous raconte. La la la, la 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 la. Elle avait son âge, elle avait son poids, la grande Bessie, mais elle chantait 1000 ans d'esclavage. Et des blouses pourries comme des cadavres, des sirops d'opium, d'étranges alcools, de poivre et de gin, le bras arraché, frappé dans vos mains et claquez vos doigts, les nègres manchots de l'Alabama. C'est un fait divers que je vous raconte. La 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 la. Reine du blues crève comme une chienne. Écoutez-moi bien, ça c'est du folklore. Et serrez vos cols bien à mi-donner.